Actu SF, les podcasts.
Alors, ce que je vous propose pendant qu'on termine de récupérer nos petits écouteurs, c'est de commencer à vous présenter mes invités. J'ai un retour dans le micro, donc je vais parler sans. Je vous présente tout d'abord François Moutou, qui est épidémiologiste, spécialiste de la faune sauvage, et qui va nous faire part de son expérience en tant qu'épidémiologue. Ça se dit comme ça ? J'ai bien dit ? J'ai bien prononcé ? D'un seul coup, j'ai eu un tout. Enfin bon, bref. Désolée, il fait un petit peu tard. Et qui va nous parler de plein de choses en lien avec les animaux sauvages, puisqu'on va parler des dinosaures. Vous allez me dire, les dinosaures ne sont pas encore présents parmi nous aujourd'hui, mais peut-être pourraient-ils revenir, on va en parler. Peut-être pourraient-ils véhiculer des petites bêtes dangereuses avec eux. On verra tout ça ensemble. Non. Bon, on a déjà la réponse. Non. Problème réglé, question réglée. J'ai le plaisir également d'avoir parmi nos invités Adrian Tchaïkovski. Adrian est auteur de science-fiction, a produit énormément d'ouvrages qui malheureusement ne sont pas tous traduits en français. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul, qui s'appelle Dans la toile du temps. Mais il y en a deux à venir, dont un qui s'intitule Chien de guerre et qui va paraître dans l'année qui vient. Le suivant, c'est mai 2019. Donc voilà, Adrian fait des histoires un peu bizarres avec des espèces, en tout cas dans la toile du temps, des espèces de petites bêtes à huit pattes dont nous allons avoir l'occasion de reparler. Et quand je dis petites bêtes, c'est plutôt des grosses bêtes que des petites bêtes. Et puis enfin, nous avons Jean-Sébastien Steyer, qui est paléontologue, qui s'intéresse essentiellement aux animaux qui existaient d'avant les dinosaures et qui s'amuse beaucoup avec les animaux d'hier, les animaux de demain, et dont l'un des ouvrages, des derniers ouvrages, porte sur cinéma et science-fiction. Donc ben voilà, je vous ai présenté nos invités. Nous allons beaucoup nous amuser, j'espère, sur cette table ronde qui parle des dinosaures, de Jurassic Park, essentiellement de tout ce qui va passionner nos invités, à qui je vais laisser la parole tout de suite, en commençant par une question à François, sur lesquelles les uns les autres pourront rebondir, puisque dans une précédente conversation, il me disait « Mais pourquoi vouloir refaire vivre des espèces éteintes alors que finalement, eh bien ma foi, nous sommes en train d'en zigouiller un certain nombre ?» François ?
Mais en fait, oui, la question exacte de cette table ronde, c'est qu'on est face à une extinction, on l'appelle la sixième, mais qui est vraiment en route, et on a encore eu des chiffres récemment, on a perdu 60% des individus des grandes espèces de la planète. Des quantités d'indicateurs sont tous au rouge, et parallèlement, on a des gens qui sont peut-être bien intentionnés et qui ont des projets de reconstituer certaines espèces que nous connaissons, mais c'est vraiment une toute petite partie de ce qui existait autrefois, comme le dodo à l'île Maurice, comme le thylacine, alors je ne sais pas si vous le connaissez bien, le thylacine, loup marsupial australien, dont les derniers ont disparu dans les années 40 en Tasmanie, au sud de la grande île australienne, ou bien les mammouths qu'on retrouve de temps en temps congelés dans le permafrost sibérien, avec des tissus qui sont dans un état qui permettrait éventuellement de tenter un clonage, sachant que leur plus proche parent actuel est l'éléphant d'Asie, avec l'idée de faire une mère porteuse éléphante asiatique et d'inoculer une cellule avec un noyau, etc. Est-ce que tout ça a un sens ? Est-ce que l'urgence est du côté de la technologie, de mettre au point des nouvelles pratiques ? Est-ce que l'urgence est dans la conservation de ce qui existe, sachant qu'il y a des quantités d'espèces dont personne ne connaît l'existence qui vont aussi disparaître ? Si je vous dis, je voudrais sauver le koala que t'as acheté, est-ce que ça vous émeut de savoir que le koala tachetée va disparaître ? Si personne ne sait ce que c'est, comment faire pour motiver les gens ? Alors, le mammouth, c'est bien, on parle d'espèces parapluies, d'espèces chapeaux, d'espèces qui, si on la protège et si on veut la garder, nécessitent des espaces tels que dans ces espaces-là, on peut conserver en cascade des espèces plus petites, animales, insectes, végétaux, y compris au niveau des micro-organismes associés, des parasites qui vont avec. Et donc, une grande espèce peut sauver un écosystème. Mais actuellement, il me semble que l'urgence est plutôt de conserver ce qui est encore présent, qu'on peut encore voir. Mais il y a franchement des animaux, je suis peut-être plus vieux que certains d'entre vous, mais je sais qu'il y a des espèces qui vont peut-être disparaître avant moi, et ça me fait beaucoup de peine.
Yeah. Oui, j'enfonce le clou, parce qu'effectivement, on parle de reconstitution d'espèces éteintes. Il y a une sorte de mode, effectivement. Alors, il y a une discipline scientifique réelle qui s'y intéresse aussi, enfin, qui s'intéresse aux matériaux génétiques d'espèces récemment éteintes, hein, la paléogénétique ou la paléogénomique, mais c'est surtout à des fins de phylogénie moléculaire. Alors, la traduction de phylogénie moléculaire, c'est des études de relations de parenté qui sont basées sur le génome. Donc, ce n'est pas forcément à des fins de reconstitution d'organismes vivants. Si vous voulez voir des organismes vivants, autrefois éteints, ouvrez un bon roman de science-fiction en ce qui concerne les dinosaures, depuis Conan Doyle, pour aller explorer en fait un tepui, c'est-à-dire une zone où, dans cette fiction bien sûr, on a des espèces endémiques qui n'ont pas bougé depuis des millions d'années, dont des dinosaures. Ça, c'est une solution. Vous pouvez aussi vous poser tranquille dans la nature ou même en ville et puis observer des oiseaux. Bon, les oiseaux, ce sont des dinosaures à plumes. Quand on fait de la phylogénie non pas moléculaire, donc des études de relations de parenté, sur des fossiles, en fait, on n'a souvent que des restes squelettiques en ce qui concerne les vertébrés ou les tétrapodes. Hein. On compare en fait les os, les ossements les uns par rapport aux autres. On définit des caractères anatomiques précis que l'on suppose en fait dérivés et que l'on observe partagés entre espèces. Et ce sont ces caractères-là importants qui nous permettent de faire des regroupements d'espèces. Et on sait aujourd'hui que le T-Rex, par exemple, a beaucoup plus en commun avec le canari qu'avec un diplodocus. Donc, il suffit d'ouvrir les yeux, finalement, pour voir des dinosaures vivants encore aujourd'hui. Certes, ce n'est pas l'imaginaire dinosaurien tel qu'on le lit dans Conan Doyle, dans Jules Verne aussi, ou tel qu'on le voit dans Jurassic Park. Parce qu'il y a des plumes, il n'y a plus de dents, il n'y a plus de queue, il n'y a plus de disparition en fait, des vertèbres caudales, de la queue, il n'y a plus de griffes, ils ne sont plus monstrueux, entre guillemets, les dinosaures, mais si on s'intéresse au squelette, à l'anatomie intime en fait, des oiseaux, on va retrouver des caractères reptiliens et dinosauriens. Voilà, alors après, il y a d'autres subterfuges aussi pour observer des dinosaures dans les œuvres de science-fiction. La science-fiction, bien sûr, s'empare de tout ça, bien avant Jurassic Park. Jules Verne, je l'ai déjà mentionné, dans Le Voyage au centre de la Terre, on a cette terre creuse un petit peu là, avec un lac gigantesque, un lac souterrain gigantesque. Et puis dans ce lac, les aventuriers vont découvrir un combat gigantesque de deux reptiles marins. Alors, ce ne sont pas tout à fait des dinosaures, c'était des cousins des dinosaures qui se battent. En fait, il y a Ichthyosaurus et Plesiosaurus pour les fans de paléontologie. Et en fait, ces deux genres-là, à l'époque de Jules Verne, étaient connus déjà. Il y avait une Anglaise qui s'appelait Mary Anning, une femme très rare à l'époque, par pression sociale, hein, qui s'intéressait en fait aux sciences et qui collectait sur les côtes anglaises en fait, des fossiles magnifiques de ces genres-là. Alors, Jules Verne, dans son roman, puisque c'est pas Jules Verne n'a pas écrit de documentaire sur les reptiles marins du Jurassique ou du Crétacé, c'est une fiction, c'est sûr. Mais il a décuplé en fait les tailles. Il a fait des animaux en fait qui normalement font 5 à 6 mètres à tout casser, des trucs de 15-20 mètres. Et ça, c'est souvent un subterfuge pour rendre aussi encore plus monstrueux des espèces anciennes. Et c'est un subterfuge qu'on retrouve dans Jurassic Park, chez Spielberg, beaucoup, dès les dents de la mer, il augmente les tailles du grand requin blanc, notamment proportionnellement les dents, pour le rendre encore plus monstrueux. Et dans Jurassic World, il augmente la taille de son mosasaur, qui vient croquer en fait, le grand blanc dans le premier Jurassic World, pour ceux qui suivent un petit peu la saga. Moi, je viens de voir Jurassic World 2 pour être à jour de ma bibliographie. Donc, on peut aussi parler de Jurassic Park.
Yeah, I mean, I think the basic problem is you can't bring, I mean, we're talking about mammoths. Mammoths is one of the things that people are very excited about, but you can't bring back a mammoth. And the reason for that, it's even if you had the complete genetic code, there is this very complex interaction between the genetics and the placenta of the mother in all placental mammals, which contributes to that development. So, and an elephant is not a mammoth, even if you're using an elephant as a mother. But more than that, we, from what we know about the behavior of mammoth, they were a social species just like elephants are, which means most likely, like elephants do, they pass down knowledge in the same way that humans pass down knowledge from generation to generation. And that chain of what it is to be a mammoth is not written in, it's completely absent from their genetics. But it would have been there for the real mammoths in their time. And you can't sever that chain and then just bring back a mammoth and expect there to be in any way a recreation of what there was. Because what we want, when we're talking about bringing back a dinosaur or anything like that, what we really want is a time machine. And we don't have a time machine. And even in the book and the film of Jurassic Park, it is explicitly acknowledged that what they've got there are not dinosaurs. They are kind of almost like a Frankenstein's monster. They're pieced together from bits of frog DNA and bits of dinosaur and bits of bird, just filled in the gaps so that they create something that kind of looks a bit like a dinosaur and roars a bit like a dinosaur, but even they know it's not. And I think that's the grand tragedy. It is a tragedy that, you know, we should bring back a dinosaur, we should bring back a mammoth, whilst at the same time not putting a tenth of the effort into keeping the things we already have, like you were saying. And it's even worse when you think that all you would ever have is this kind of artificial thing that you could never ever say this is what it was like. So I suspect I was brought on this panel to be the science fiction writer saying, yes, let's do all of these things. But no, I'm kind of, even though I have written stories about bringing back mammoths, I'm kind of realistic in my heart to know that we couldn't do it. And even if we did it, it wouldn't be a mammoth.
En fait, ce qui serait, enfin, rigolo, je ne sais pas si c'est le mot, mais en supposant qu'on arrive à faire naître un bébé mammouth avec une maman éléphant, le petit mammouth, il se prendrait pour un éléphant, vu qu'il n'y a pas de mammouth pour lui apprendre ce que c'est qu'un mammouth. Et donc, il aurait peut-être une forme un peu bizarre, avec des poils à droite, des poils à gauche, mais il se comporterait forcément comme un bébé éléphant, puisque sa maman lui apprendrait à être un petit éléphant correct, bien élevé. Et donc, on aurait un paradoxe, puisqu'une espèce animale, c'est un ensemble d'individus en interaction entre eux et avec tout leur environnement. Et donc, même des animaux en captivité, ça peut être, ça a été quelquefois, mais ce n'est pas toujours la règle, une façon de sauver une espèce qui va disparaître et qu'on peut après remettre en nature. Mais quand elle est coupée de son environnement, elle perd certainement des caractéristiques comportementales majeures. Alors, chez les primates, chez les carnivores, on a très peu d'exemples où il est facile de réintroduire les animaux en nature sans précaution. Chez les ongulés, chez les ruminants, c'est plus simple. Il y a beaucoup plus le comportement est sans doute plus simple. Il y a beaucoup plus de choses qui sont apprises avec les parents directement et la relation à l'environnement est sans doute plus aisée à récupérer. Mais donc, on est dans des schémas très curieux où si on n'a plus le milieu pour mettre l'animal, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un individu d'une espèce sans son milieu ? Et surtout un unique. Alors imaginez, pour reproduire un animal unique, ça, c'est également assez compliqué.
Et puis il y a le matériel de base, effectivement. Bon, les mammouths sont présents sous forme de carcasses qui se décongèlent plus ou moins lentement dans le permafrost. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de cellules sexuelles de mammouths. Alors il y a des effets d'annonce. Vous pouvez lire de temps en temps dans les médias qu'on va cloner un mammouth d'ici 15 ans. D'ici 20 ans, ce sont purement des effets d'annonce médiatiques. Alors, techniquement, on peut cloner du vertébré, tétrapode, du mammifère, même depuis Dolly. Mais est-ce que c'est parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire ? Ça, c'est la première, la grande question, bien sûr. Et puis, il faut aussi être réaliste quant au matériel fossile ou subfossile. Alors, le mammouth, encore une fois, c'est de la congélation, pour faire simple, de minimum 4000 ans à peu près. Et quand on parle de fossiles et de dinosaures, vous n'êtes plus dans ce cas-là du tout. Votre matériel initial, c'est de la matière minérale. Il ne faut pas oublier qu'un fossile, avant toute chose, c'est un reste organique qui est pétrifié. Pour vous donner un schéma en fait simple, voire simpliste, en fait, des processus physico-chimiques qui conservent en fait les fossiles. Vous avez votre cadavre qui va, si possible d'ailleurs, se faire rapidement recouvert par du sable ou de l'argile en fonction des environnements. Et avec le temps, une fois qu'il n'y a plus d'exposition en surface et d'attaque éventuellement des nécrophages, parce que souvent nous, en tant que paléontologues, on trouve que des fragments osseux ou des dents et on reconstruit en fait des puzzles. Mais en ce qui concerne le matériau même, ce ne sont plus des ossements, c'est en fait de la pierre. Chaque atome de la matière organique du cadavre va partir lentement en fait dans le sol et va être remplacé par diffusion en fait quasi atomique ou moléculaire par de la matière minérale du sol qui va venir remplacer en fait la matière organique du squelette. Donc par abus de langage, on parle de squelette fossile, mais c'est de la pierre. Il y a 99,9999% de matière minérale. Alors de temps en temps, vous avez donc 0,00001% de matière organique, mais c'est très rare et on parle de conservation exceptionnelle dans le cas, par exemple, de l'ambre. Et c'est la bonne idée, d'ailleurs, de Crichton, l'auteur de Jurassic Park, qui a été adapté assez fidèlement, d'ailleurs, par Steven Spielberg pour le premier, en tout cas, Jurassic Park, où, dans l'histoire, dans la fiction, on nous explique que l'ADN de dinosaures, il vient du sang de dinosaures, lui-même contenu dans un abdomen de moustique qui a piqué un dinosaure de l'époque, et le tout étant préservé dans l'ambre. Je vous rappelle que l'ambre, c'est une résine, en fait, principalement de conifères, mais pas que, qui coule en fait, le long du tronc ou qui tombe en fait, directement au sol et qui va engluer les petites bêtes qui vivent dans cet environnement forestier-là. Il n'y a pas que des moustiques connus dans l'ambre, il y a des tiques qui ont, je crois qu'on dit mordu, c'est ça ? Ou sucer des dinosaures à l'époque. Il peut y avoir des peaux de lézards, voire même d'autres espèces en fait, qui sont extrêmement bien préservées parce qu'elles ont été engluées en fait, de leur vivant dans cette espèce de colle naturelle qui se solidifie et qui maintient en fait, la texture et la structure dans le temps. Mais ça, c'est extrêmement rare. En fait. Donc, il y a un côté fantasme aussi quand on parle de reconstruire des dinosaures, en l'occurrence.
And also, I mean, one of the major considerations, especially if you're talking about releasing something into the wild, in order to propose doing that, you're pretty much betting that it's going to survive just well enough. And it seems entirely like if you release a prehistoric animal into the wild in any way, the likelihood is it's just going to die out. But there's always a possibility it might do too well. I mean, what if you release mammoths into the wild and they just bred like rabbits and suddenly you had mammoths everywhere and they adapted to the urban environment and it's not foxes knocking your bins over in the evening, it's mammoths romping down the high street every night. Because you know, you have this thing about, well, this is a species that you, if you're able to recreate it faithfully, you have no idea how it's going to interact with current ecosystems. You don't know what it will drive to extinction in its own survival, or for that matter, what other species you might not necessarily want getting a bit of a leg up suddenly do really well because mammoths are giving them an opportunity. You wouldn't want, say, a particular species of mosquito or other parasite to suddenly find that mammoths were their absolute ideal environment and have a boom in population because of that. I think this sort of consideration is—it's what you don't tend to see in the newspaper things saying, "Yes, let's clone a mammoth," or and even if you're talking about something a lot simpler, I mean, let's say, there's no way you could get the genetic material, but purely as a thought experiment, let's say you could clone a trilobite, which I would love personally because I think they're fantastic, but. Yeah. All right. So you've got a creature there. It's probably not very social. It comes from an egg. It doesn't have. So if you could somehow get the genetic material, you could theoretically get a complete trilobite. But there's no way to predict how that would, whether that would suddenly spread so that every floor of every sea was carpeted with the damn things, or whether there was literally so little of an approximation of their original habitat that there would be no livelihood they could possibly make.
Ouais, ça fait des jolis scénarios possibles, effectivement. Et pour revenir à Jurassic Park, je me rappelle d'un texte à l'époque de Stephen Jay Gould, le grand paléontologue américain qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Et parce qu'à l'époque de Jurassic Park, tout le monde parlait des dinosaures et tout le monde parlait de reconstruire des dinosaures. Et on commençait à découvrir que l'ADN est une molécule peut-être plus résistante qu'on avait imaginé, mais sans doute pas aussi résistante qu'on l'espérait. Et du coup, des gens se sont mis dans la tête d'aller chercher de l'ADN de dinosaures sur des matériels minéraux, ce qui est totalement impossible. Alors, il y avait deux façons de voir les choses, et c'est ce que disait bien Stephen Jay Gould. Soit c'est de l'argent perdu, parce que franchement, à la fin du compte, les gens, en manipulant correctement, ils ont sorti de l'ADN, et quand ils ont regardé ce que c'était leur ADN. Donc ça confirmait que c'était bien eux qui avaient fait le boulot, c'était déjà ça. Mais en même temps, on a quand même progressé dans les techniques de manipulation de l'ADN, et ça a eu des applications concrètes dans la génétique humaine, dans certaines maladies, dans la médecine contemporaine. Et donc, on pouvait dire, d'un côté, bon, ça ne sert à rien pour les dinosaures, mais en même temps, on a acquis des compétences dans la recherche d'ADN, dans du matériel organique, dans du matériel récent. Et du coup, il y avait quand même des applications positives en médecine. Donc, ce n'était pas que de l'argent perdu. Donc, l'engouement, parfois, dans une direction, peut avoir, et c'est la serendipity, ça arrive à des résultats dans un domaine qu'on n'avait pas ciblé, mais qui peut être touché par la recherche parce qu'une retombée non prévue va arriver de cette démarche.
En vous écoutant, j'étais en train de penser, on parlait des mammouths et on parlait d'un herbivore, tout va bien, mais j'imaginais la même chose avec un lion à dents de sabre et je l'imaginais se balader dans les rues et d'un seul coup, c'était nettement moins sympathique.
N'empêche que ça serait intéressant. Parce qu'on n'a toujours pas vraiment compris, Jean-Sébastien, tu me diras si c'est vrai, mais comment ils utilisaient leur sable, ces machins-là ? Ils devaient savoir le faire, puisqu'ils ont quand même duré un certain temps. Et vous savez que non seulement il y avait des chats, des félidés à dents de sabre, plusieurs familles indépendantes, donc ils ont inventé ça de façon indépendante. Et vous avez même un marsupial sud-américain, donc à poche, totalement différent au niveau phylogénétique, qui avait des dents de sabre. Et on est sûr qu'ils avaient un bâillement impressionnant, parce que quand on a des grandes dents, il faut ouvrir la bouche plus grand encore pour que les dents servent à quelque chose. Et comment ils s'en servaient ? Donc il y a des gens qui disent qu'ils étaient des super prédateurs, d'autres disent non, ils se contentaient de manger des cadavres, d'autres disent qu'ils prenaient les bêtes par en dessous, ils ouvraient le ventre pour faire tomber l'intestin et après, voilà. On ne sait pas du tout comment ça fonctionnait. Donc si quelqu'un sait comment faire revivre un dent de sabre, dites-le nous, on serait vraiment intéressés pour voir comment il marchait.
L'autre hypothèse aussi, c'est une sorte de dimorphisme sexuel. Seuls les grands mâles reproducteurs ont des grandes dents, et un petit peu comme chez les morses, où il y a une reconnaissance directe du sexe par la taille des dents. Donc on est vraiment dans le flou, et du coup, le vœu de reconstitution ou de désextinction peut être justifié effectivement en partie, dans certains cas, pour expliquer certaines problématiques évolutives. Bon, après, au niveau environnemental, finalement, effectivement, il faudrait reconstruire tout l'environnement du Pléistocène pour que ces charmantes bestioles-là puissent évoluer tranquillement. Donc, c'est pas demain la veille. Et puis, au niveau éthique, si on est capable de faire ça sur du mammouth ou du smilodon, on peut faire ça sur de l'Homo erectus ou de l'Homo néandertalensis. Et on les met où alors, ces autres représentants humains d'une humanité ? Est-ce qu'on les met dans des zoos humains, comme c'était le cas dans l'histoire ? Ça pose de réels problèmes importants, en fait, puisque si on applique ça, en fait, aux autres espèces qui ont été contemporaines à la nôtre, hein, il n'y a pas eu une succession automatique dans le temps entre les espèces du genre Homo. Il y a eu des hybridations, des métissages entre les Denisoviens, par exemple, et les Néandertaliens. Nous-mêmes, nous avons dans notre patrimoine génétique actuel des gènes néandertaliens. Et l'histoire et la paléoanthropologie montrent que des populations ont échangé en fait leurs gènes. Donc, reconstruire aussi cette histoire-là pose des problèmes éthiques importants. Enfin, à mon avis.
Je partage.
Yes, sorry, my own. I was lost in thought that if you could have, if you could bring the Smilodon back. So I think I may have just lost my translator there. If you can bring the Smilodon back, you'll be able to have a pet cat that could open its own tin of cat food. but yeah, I mean, I have bringing back Neanderthals is actually quite a popular science fiction topic, and I've written upon it myself, and a number of other writers have given it a go. And one of the more positive takes on it is you might be introducing more kind of almost competences we've lost, because there's been a lot of thought around what we might have gained as a species from the very small amount of Neanderthal DNA we've incorporated. So is everything okay?
I was looking for the translation.
Okay.
Do you have translation?
Well, I'm talking at the moment, so I'm not hearing. We're good. And so there is the idea that there may actually be some of our success we may owe potentially to the incorporation of genetic competences from the Neanderthals. And obviously, it's not anything I think that we're in a position to substantiate one way or another. So it's purely in the realm of theory. But it would be nice to think that we could recreate the Neanderthals and they might dig us out of the hole we've got ourselves into.
Alors, il y a quelques endroits. Alors, il y a l'histoire du Pléistocène Park en Sibérie. Alors, j'avoue que je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemblait. Mais il y a des endroits plus proches. Pas forcément, je pense à l'île Maurice, qui s'appelait autrefois Île-de-France. J'ai cherché au muséum des chauves-souris de l'île Maurice, que je n'ai jamais trouvé, jusqu'au jour où j'ai pensé qu'il fallait chercher à Île-de-France, dans le bassin parisien, et là, je les ai trouvés. Alors, les systèmes de classification avec le temps, c'était une drôle de surprise. Et cette île a été occupée par les humains il y a seulement 5 siècles. Il n'y avait pas de population humaine avant. Et il y a des îlots périphériques qui ont été un peu plus épargnés que la grande île. Alors allez à Maurice passer des vacances, il y a des jolies plages. Mais allez visiter l'île aux aigrettes d'un côté ou l'île ronde si vous pouvez. Où là, on essaie de reconstituer l'écosystème qui était assez simple. Les îles sont des laboratoires, de fait, avec moins d'espèces, moins de diversité, moins de surface. Mais en même temps, on peut en tirer quelques règles un peu plus générales, un peu plus universelles. Et là-bas, les plus grands herbivores qui contrôlaient un peu l'écosystème, c'était les tortues géantes. On a malheureusement exterminé toutes les espèces qui étaient dans les îles Mascareignes, Maurice, Réunion et Rodrigue. Et on a simplement réintroduit une espèce très proche d'Aldabra aux Seychelles, qui, après qu'on ait retiré toutes les chèvres qui rasaient tout le paysage, les lapins qui rongeaient tout ce qui poussait, les rats qui mangeaient les oiseaux, on a reconstitué sur l'île Ronde un écosystème qui pourrait rappeler le milieu tel qu'il était, donc il y a plus que 5 siècles avant l'arrivée des Européens, où on a des arbres endémiques, des palmiers endémiques, une tortue qui n'est malheureusement plus la même, mais on a retrouvé des reptiles. Vous avez un serpent qui ne vit que sur l'île Ronde, qui doit faire 2-3 km² et qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. Vous avez une chauve-souris endémique et vous avez des oiseaux endémiques. Alors, les espèces disparues, elles sont plus là, mais on a un écosystème qui est en partie reconstitué avec des actions assez simples et avec un grand herbivore qu'on ne connaissait pas trop sur les continents, qui sont les tortues géantes. Et c'est assez intéressant de voir que localement, dans des conditions particulières, on est capable parfois, sans faire forcément de génétique très compliquée, mais simplement un peu de bon sens, et retirer les exotiques qui souvent font beaucoup de dégâts, retrouver un paysage qui peut ressembler à ce qu'il était autrefois.
Alors on pourrait imaginer des mammouths sur des îles, mais le problème c'est que quand on regarde ce qui se passe sur une île, effectivement, laboratoire un peu de l'évolution, on observe des modifications par rapport en fait au continent. Les carnivores deviennent plus petits en général. On a des cas où les grands herbivores, en fait, une fois qu'ils passent sur l'île, enfin sur la péninsule, et que la péninsule est isolée en île, justement, parce qu'il y a une remontée des eustatiques, donc des eaux en fait marines, eh bien l'éléphant en question, et ça a été le cas justement de l'éléphant d'Asie, jusqu'en Grèce ou jusque même certaines îles actuellement qui appartiennent à l'Italie, on a des éléphants nains parce qu'ils se retrouvent prisonniers pardon, dans un écosystème fini, et la pression sélective fait que ils continuent à évoluer, mais vers des formes naines. Et d'ailleurs, quand les Grecs découvraient à l'état subfossile en fait des crânes, quand même assez énormes, même si c'est des éléphants nains, ça reste plus gros qu'un crâne humain, avec un grand trou au centre qui correspond en fait au nasal, au trou nasal de l'insertion de la trompe. C'était du cyclope. Donc c'est marrant d'ailleurs de voir que la mythologie en fait rejoint aussi parfois la paléontologie. Mais je ferme la parenthèse. En fait, ces îles-là, ce sont aussi souvent des modifications, et on observe des modifications de taille en fait, soit du gigantisme, par exemple d'anciens rongeurs, soit du nanisme, dans le cas d'espèces en fait continentales.
Alors, comme la science-fiction, c'est aussi le monde du what if, du ici. Et si on avait une planète entière sur laquelle on essayait de s'amuser à faire évoluer des espèces.
Well, this is what I was thinking there when you were talking about restoring the island ecosystem. That's your perfect sort of practice ground for terraforming. Because I mean, if you're terraforming, whether it's say Mars or whether it's looking at a more Earth-like exoplanet, which would probably be a bit of an easier job than Mars if you could get there, what you're going to need to think of is not, well, we will introduce some species, but we will introduce some ecosystems. Because, and you'd need, you know, you would almost certainly need to build up from the very simple. Getting even visible animals, let alone something as complex as a vertebrate on there, would be very, very late stages. But if we are able to take an island that's, say, been just stripped down to the bedrock by goats and rabbits and rebuild it to something that works and functions and is internally stable, then that really is, I think, that's sort of terraforming 101, really. And if once you can do that, once you can reliably, in an enclosed system, say, well, now this is going to keep going as long as it needs to, all of those cycles and chemicals and food webs are balanced, then we can take that to the stars, really.
Je ne connais que la Terre et encore pas très bien. Au-delà, je connais moins bien.
Je crois qu'il y a déjà des scénarios en fait en science-fiction où on découvre des planètes préhistoriques. Dans l'histoire du cinéma, ça s'est déjà fait. Et c'est aussi un des moyens de rencontrer des dinosauroïdes. Alors souvent, c'est des formes un peu modifiées, plus ou moins monstrueuses ou plus ou moins kitsch aussi maintenant pour nous. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs de voir, c'est qu'à l'époque, notre compréhension des dinosaures, pour revenir en fait aux dinosaures, ou des espèces qui sont représentées par la science-fiction, correspond à l'état de nos connaissances d'une époque donnée. Et ce que je regrette dans Jurassic Park, c'est que, d'ailleurs, ils le disent à demi-mot dans le Jurassic World, le premier, on nous raconte qu'on présente les dinosaures tels que les visiteurs du parc veulent les voir et non pas tels qu'ils étaient. Et effectivement, plus on avance dans l'histoire de la saga Jurassic Park, plus les dinosaures sont nuls en termes de paléontologie, en termes de reconstitution paléontologique, dans le sens où Steven Spielberg, même s'il est accompagné d'un collègue nord-américain que je connais un petit peu, qui s'appelle... j'ai oublié son nom, mais ça va revenir. Jack Horner. En fait, Spielberg suit de moins en moins les données paléontologiques. Si vous regardez Jurassic Park 1, 2, 3, c'est pas si mal que ça en termes de reconstitution paléontologique, parce que les raptors, dans le premier, ils n'ont pas de plumes, hein, parce qu'on savait pas, on n'avait pas encore les données, notamment du côté des fossiles importants connus en Chine entre-temps, qui nous montrent qu'il y avait des représentants de la famille des raptors qui présentaient en fait des plumes, en plus de certaines écailles. Donc dans le 1, il n'y a pas de plumes. Dans le 2, Il n'y a pas de plumes non plus. Par contre, dans le 3, on voit des raptors un peu emplumés, là, au niveau de l'échine, au niveau, un peu, au niveau des membres, avec un certain degré de communication. Et ça, ça correspond à une évolution, en fait, de nos connaissances scientifiques. Mais on revient en arrière avec Jurassic World, finalement, avec des dinosaures, entre guillemets, rétrogrades, qui sont assez pataux, même si on met le paquet au niveau CGI, hein, effets spéciaux. C'est des super productions, donc il y a beaucoup de budget, il y a beaucoup de créatures designers qui travaillent sur les textures, qui travaillent sur les formes. Et ben, malheureusement, en fait, Jurassic World ne suit pas les données scientifiques. Bon, alors, vous allez me dire, c'est pas un documentaire non plus sur les dinosaures à l'époque du Crétacé ou du Jurassique, certes, mais c'est dommage de ne pas continuer en fait, l'œuvre de la première trilogie qui suit un petit peu les données scientifiques, quoi.
En revenant sur la terraformation, en général, effectivement, quand on a quand la science-fiction en parle, et elle en parle depuis très longtemps, je pensais par exemple à Un pommier sur Mars d'Heinlein qui date des années 50. On a une planète qu'on va terraformer, qu'on va ensemencer en bactéries, par exemple, pour faire un sol, parce que sans bactéries, le sol est inerte et ne permet à rien de pousser. On va y mettre des plantes qu'on choisit, etc. Mais effectivement, la plupart du temps, on est sur un environnement qu'on stabilise à partir de ce qu'on a maintenant. On ne parle pas tant que ça. Enfin, j'ai souvenir d'un film qui nous fait une évolution ultra rapide, mais on ne conçoit pas forcément qu'il faille passer par tous les stades, en fait, les stades d'une planète comme la Terre qui a commencé avec des poussées d'oxygène, enfin, d'abord pas d'oxygène, beaucoup d'oxygène, etc. Est-ce que ce sont des choses qui inspirent les auteurs de science-fiction? Et puis ensuite, comment les spécialistes faune sauvage et paléontologues voient la chose? Adrien, peut-être? Les auteurs de science-fiction par rapport à la terraformation, qu'est-ce qui est le plus amusant, partir d'un monde qu'on terraforme à partir de ce qu'on a aujourd'hui ou l'idée d'une évolution ultra rapide? Qu'est-ce qui vous branche le plus?
I think the most interesting field of speculation is what happens when it goes wrong, what happens when we're not around to keep the control of it. Because I think it's going to be very hard to write a particularly plausible story where we go out with a colossal amount of time and effort to terraform a planet and turn it into the world of the dinosaurs, because you wouldn't really, would you? But on the other hand, if you go out and you seed the place with some birds and then maybe, you know, you have to go off and you come back and the birds have evolved with, you know, they've got no other predators, say, they've got very big, they've got on the ground, and then you've kind of got your new dinosaurs, because there's no reason, you know, as they've evolved from dinosaurs, there's no reason why they couldn't evolve into something quite dinosaur-like, given the evolutionary pressures, given the time. And I think it's those gaps without human oversight that give you the access to the most interesting stories.
En fait, moi, j'ai deux commentaires que je pourrais faire. C'est que, enfin, on est sur la question de la référence. De quoi parle-t-on? De quelle nature, à quelle nature se réfère-t-on? Et vers quoi voudrait-on aller? Par rapport à quoi? Alors, dans le domaine du cinéma que je connais, qui n'est pas du tout la science-fiction, il y a un film qui reprend le roman de Romain Gary, Les Racines du Ciel. Je pense que tout le monde a vu ça, indépendamment de la science-fiction. Et dans le film qui date, je ne sais pas de quand il date, des années 60 peut-être, je pense que c'était peut-être avant les grandes décolonisations d'Afrique, et c'est un film américain, avec des acteurs français et américains, on voit des scènes de troupeaux d'éléphants. Je vous assure qu'aujourd'hui, on ne peut plus voir ça sur la planète Terre, dans aucun pays d'Afrique. Et c'était en Afrique centrale, au milieu du XXe siècle, ou dans les années 60. Et donc, dans un cinéma contemporain, ce n'est pas vraiment du cinéma du XIXe siècle, il n'y a pas beaucoup, hein, pardon ? 58, d'accord, merci Estelle. Donc, on a déjà dans le cinéma des images de faune qui n'existent plus aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de triste quand même. Et deuxième chose, si on repart loin dans le temps, en disant sur une planète, alors moi, je ne connais pas ces histoires-là, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si on repart à moins 200, moins 300, il n'y a aucune probabilité qu'on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. L'évolution, nous, on l'a fait évidemment en partant de nous et on remonte le temps et on remonte par où on est passé pour arriver là. C'est vrai, ça s'est passé comme ça. Sauf que si vous vous mettez de l'autre côté, il y a tellement d'embranchements, il y a tellement de probabilités que jamais vous ne retrouvez ce chemin-là. Et donc, soit ça serait arrêté quelque part, parce que finalement, on avait fait le tour de la question à l'époque, soit on serait arrivé avec les trilobites qui auraient envahi tout et qui seraient à notre place, qui parleraient dans les micros, enfin, je ne sais pas, qui auraient des véhicules, soit d'autres bestioles. Mais il n'y a aucune probabilité, au sens mathématique, d'arriver à là où nous sommes si on remet le compteur à moins 200, moins 300. Enfin, Jean-Sébastien, tu peux confirmer, mais oui, oui. Ça, c'est sûr et certain.
Oui, l'évolution est tellement buissonnante, aléatoire et irréversible que, d'ailleurs, Gould le disait très bien, rembobiner le film, de l'évolution jusqu'à même moins 4 milliards d'années, pratiquement en 3,7 ou 8 milliards pour les premières formes de vie connues sur Terre, des stromatolites, des sortes de tapis algaires et bactériens, et recliquer sur « play », vous n'aurez pas du tout le même film, parce que l'évolution, c'est un phénomène stochastique en termes de physique qui fait intervenir une infinité de paramètres. Vous avez déjà ce qu'on appelle un peu classiquement la loterie de l'hérédité qui fait que la constance dans l'évolution, finalement, c'est le changement. Et ensuite, la sélection naturelle retient ou pas des formes qui se démerdent un peu mieux que les autres. Et puis même si elles se démerdent mieux que les autres, il suffit d'une bonne météorite qui passe par là, il y a éventuellement 66 millions d'années ou même peut-être avant, et puis vous reconstruisez en fait une nouvelle bobine, quoi. Donc tout ça est tellement aléatoire que si on terraforme demain une exoplanète, bon demain ce ne sera pas le cas, mais on n'obtiendra pas du tout en fait le même résultat un peu plus tard.
I mean, weirdly, this actually ties in with something I'm my current writing project, which has involved constructing about a dozen alternate timelines for the Earth, and each one of which a different sort of evolutionary lineage becomes the dominant species. So, which has been enormous fun, actually. And considerably easier than doing the bits with the humans in, you know. but yeah, I mean, there have been some sort of philosophies of evolution, which is sort of philanthropic, in that they kind of assume that, well, however you played the tape, you'd end up with something human-like at the end of it, which I vehemently disagree with. And I think that there's absolutely no reason why even a fully sentient dominant species derived from Earth evolution need to be anything like us in any way, because there are so many, in the same way that if we ever met an alien, it wouldn't be Mr. Spock. It wouldn't be that sort of humanoid, but with a few extra differences. It would be completely different. Even if it had a technology working with the physics we could understand, the evolutionary pathway that would bring that alien into being would have nothing in common with ours. And we can even see on the Earth now millions of different species that are more alien than most of what you see in a science fiction film.
Oui, oui, oui. Enfin, je repensais à quelque chose tout à l'heure. J'y ai pensé quand on parlait du tigre à dents de sabre. Je ne sais pas si vous connaissez des animaux qu'on appelle les mésoplodons. Ce sont des cétacés. Il y en a une quinzaine d'espèces. C'est gros, ça fait 5-6 mètres de long. On en connaît certaines espèces que par 2 ou 3 spécimens échoués sur une plage. C'est des bêtes qui viennent respirer comme tous les cétacés, mais qui ne sont pas du tout du genre à venir dire bonjour au bateau, ni aux surfeurs, ni aux nageurs. Donc c'est vraiment extrêmement discret. Et certaines espèces, chez le mâle, j'ai pensé avec la remarque sur les morses, ont des dents, une paire de dents extraordinaires qui leur empêchent d'ouvrir la bouche complètement. Ils peuvent juste l'entrouvrir. Et on se dit, sapristi, mais comment ça peut marcher? Un animal qui ne peut pas ouvrir la bouche. Et alors apparemment, mais ça c'est la déduction parce que personne ne l'a vu, ils se nourrissent de calamars. Et donc, ils vont dans les bancs de calamars et ils aspirent. Bon, eh ben, ils ont des dents pour faire beau, pour plaire aux femelles, qui les empêchent d'ouvrir la bouche grand. Et ils ont comme méthode pour se nourrir d'aspirer les calamars. Essayez sans les mains. c'est pas évident. Je pense qu'il faut un peu d'expérience. Et quant aux morses, moi, j'étais quand même soufflé d'apprendre que les morses, ça mange des coquillages bivalves, comme des moules, comme des coquilles Saint-Jacques. Et avec leur bouche, donc pareil, sans les mains, ils ouvrent et ils mangent la chair à l'intérieur sans les coquilles. Ben, essayez. C'est pas vraiment évident. Hein. Et donc, on a des animaux sur Terre, mais ils sont extraordinaires. C'est vraiment des animaux incroyables. Et pourquoi est-ce qu'on fait, on n'a pas un peu plus de respect pour eux? Pourquoi aller chercher des machins dans les planètes pour reproduire le même schéma qu'ici, alors qu'on a à portée de main des compagnons de vie vraiment, vraiment super, super, super. Et le koal à queue tachetée, franchement, c'est tellement mignon. C'est un petit marsupial, il faut quand même que je dise ce que c'est, hein, qui était présent sur toute l'Australie, qui n'est présent actuellement pratiquement que sur la Tasmanie, un tout petit bout de la côte est de l'Australie continentale. C'est gros, un peu plus gros qu'un chat. Et c'est très mignon, et ça aime les saucisses, parce qu'il y a un campement où j'avais été, et tous les midis, on mangeait des saucisses, et il venait manger une saucisse avec nous. Et il était très content avec sa saucisse, voilà. Et ils sont en train de disparaître, c'est un peu dommage.
I'm just thinking now that if we ever discovered that instead of carving up the flanks of enormous herbivores, saber-toothed tigers just went around hoovering up mice and rats and things, because they couldn't open their jaws.
Merci à vous. Je me dis que l'heure passe, en fait, il est déjà 20h20 et vous avez peut-être des questions à poser. Oui, j'en vois une déjà. Alors, on va ouvrir les questions. Est-ce qu'il y a un micro?
Oui, ah, par
parfait.
Ici.
Bah, on va commencer par ici. Merci.
Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de déni social au niveau de l'environnement, comme quoi la science et l'humain arriveraient à surpasser ça d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive aussi aux espèces, à l'extinction des espèces, à cause de films justement comme Jurassic Park, en pensant que on arrivera avec à recréer ces espèces-là de toute façon grâce à la science. Et du coup, j'ai l'impression que ce genre de film fait plus de mal que de bien à cette cause.
C'est pas faux. Après, il y a quand même, c'est mon côté peut-être trop positif, mais dans le deuxième Jurassic World, on revoit le mathématicien Malcolm, le spécialiste de la théorie du chaos, qui dit à la fin. On rentre dans une nouvelle ère, on rentre dans un nouveau Jurassique. Je ne veux pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Et là, l'humain perd totalement le contrôle. Et c'est la puissance, en fait, et l'intérêt de la science-fiction, finalement. C'est un genre littéraire, avant tout, ou cinématographique, qui est là pour nous montrer quels sont les pires scénarios possibles qui peuvent arriver quand on perd le contrôle sur des technologies, sur des... explorations, sur des comportements confinés dans des vaisseaux spatiaux. Et Jurassic Park, c'est pas vraiment de la science-fiction, on est plus dans le fantastique, mais a ce petit rôle à jouer quand on le regarde d'une manière positive. Quoi.
I don't think I can add to that, but it is kind of depressing because I think the scientific ideas behind Jurassic Park are very positive, but you're absolutely right that they very quickly become an excuse to do nothing.
Est-ce qu'on a une autre question?
Oui, rapidement. Alors, j'ai entendu parler d'un chiffre dernièrement qui fait assez froid dans le dos. Si on réfléchit en termes de biomasse, l'humanité, ainsi que les têtes de bétail qu'elle contrôle complètement, représenterait 80% de la biomasse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un chiffre complètement faux, qui est trop énorme pour être réel? Et deuxième question, que faire pour que finalement l'humanité représente enfin 50% seulement de la biomasse, ce qui serait déjà énorme? C'est la première fois qu'une espèce comme la nôtre représente autant de poids sur la Terre, parce que c'est bien ça la biomasse, hein, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Alors, ce sont des publications récentes. J'ai les références, alors pas sur moi, mais je peux vous les transférer si vous souhaitez. Je dois avoir les articles. Alors, c'est pas évident parce qu'il faut, pour estimer la biomasse, il faut des calculs à partir de carbone. Enfin, il y a des méthodes qu'on peut discuter, mais je pense que les ordres de grandeur ne sont pas faux. Et donc, l'idée, c'est que si on pèse la biomasse des humains plus des mammifères domestiques sur la planète, mammifères, et qu'on met en face la biomasse des mammifères terrestres, donc tous les mammifères non domestiques, mais sans les marins, on a 95% de la biomasse du côté hommes et animaux domestiques. Et tout l'ensemble des sauvages, des souris aux chauves-souris, en passant par les tigres vers les éléphants, c'est 5%. Et on est déjà en train de se plaindre que c'est trop et on continue à diminuer cette biomasse. On est vraiment dans un schéma où probablement il y a des règles de biologie qui laissent supposer qu'on a dépassé des seuils de survie pour certaines espèces. Il y a pas mal de phénomènes aléatoires, indépendamment de ce que nous ferons, qui vont les éliminer. Alors, quelle est la solution ? Maîtriser la démographie humaine. Voilà, c'est facile. Voilà, on part en disant ben, « je maîtrise la démographie humaine ». Voilà, donc mais c'est à nous de le dire et de le faire. Hein. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Et sans doute aussi, puisqu'on a un problème avec ces animaux domestiques, manger moins de viande, clairement, et arrêter de déforester les dernières forêts tropicales pour y mettre des pâturages, pour mettre des zébus, pour faire des hamburgers, en résumant un peu l'histoire. Et si chacun d'entre nous, et pas que nous, le problème c'est qu'on peut dire ça ici, on peut dire ça à Nantes, on peut dire ça en Loire-Atlantique, on peut dire ça en France, mais il faut dire ça à l'échelle de la planète. Il y a des pays, évidemment, dans des situations historiques, sociales, politiques extrêmement différentes, et dans des schémas de pensée qui sont autres, et on doit les comprendre, on ne peut que les comprendre. Mais comment faire ? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce qu'il y a des gens qui arrivent à accéder à la viande, alors que c'était vraiment une carence jusque-là. S'en passer complètement, c'est difficile. Et il faudrait aussi que des pays européens comme la France arrêtent de dire « on va nourrir le monde ». Parce que si chaque pays européen dit « on va nourrir le monde », évidemment, c'est une surproduction, un gaspillage, avec des conséquences terribles, parce que ce qu'on produit chez nous, ce que nous consommons, ça prend beaucoup plus que la surface de la France pour le produire. On est tous d'accord. On a besoin de surfaces qui sont ailleurs. Et voilà, donc c'est pas simple. Une fois qu'on a dit ça, ben voilà, on est content. Enfin, nous, on n'est pas content. Mais l'équation, quelque part, elle n'est pas inconnue. Mais dire, ah ben écoutez, on verra ça dans 30 ans, dans 40 ans. Non, non. Et on raisonne actuellement à l'échelle d'un mandat électoral. Et je peux juste vous dire que ce n'est pas une bonne unité de temps, quelle que soit la question posée.
We've known for a long time that you can farm food for people, you can farm protein 10 times as efficiently using plant protein like soy than you can by raising animals on that eat the plants. And in all honesty, at some point in the future, that's actually the bullet we're going to have to bite. I mean, I'm a dedicated carnivore, so I'm kind of part of the problem, but animal farming, and especially I think cattle farming, is phenomenally a phenomenally inefficient use of land and use and an inefficient use of biomass. And at some point, it's those scales will tip. But unfortunately, by the time they do, we'll probably have already done the damage that we're currently talking about. And I mean, we were just skipping back to the previous question, I do worry that things like people getting terribly enthusiastic about the space race and terraforming and all the things I write about, but are in themselves another means of avoiding the problem, because the basic message there is, well, we can screw up Earth because we've got somewhere else to go. But, I mean, let's face it, we don't actually have anywhere else to go, and by the time we screw up Earth, we're not going to be sufficiently advanced in that line to get anywhere. Bit of a downer, sorry.
Est-ce qu'on a une autre question qui va nous amener sur une fin peut-être un petit peu plus positive, qui sait ? Ici, monsieur.
Oui, bonsoir. Donc ma question est la suivante, c'est qu'au lieu d'essayer de s'amuser à recloner des espèces animales qui ont disparu de la surface de la Terre il y a des milliers ou des millions d'années, on pourrait pas plutôt s'amuser à cloner des espèces qui sont déjà en voie de disparition ou des espèces qui ont disparu très récemment à cause de l'homme, histoire de garder une grande biodiversité.
Ben, en fait, il y a des gens qui parlent de ça. Il y a des exemples en cours. Le thylacine, je ne sais pas si on a déjà un copain du koal. Le koal, donc, c'était celui qui a la queue tachetée. Et ce copain, le thylacine, le dernier est mort de mémoire en 1946 en Tasmanie. Alors, c'est paradoxal parce qu'en Tasmanie, il n'y a plus de thylacine. Mais alors, tout est au thylacine. Donc, la bière locale, c'est la bière du thylacine. Tous les hôtels, c'est thylacine. Donc, un animal disparu, ça devient immortel. ça pose aucun problème parce qu'il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour le protéger parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a pas besoin de mettre des réserves en retrait des activités humaines puisqu'il n'y a plus rien à protéger pour lui. Et donc, c'est assez rentable, un animal disparu. Mais ceci dit, on a gardé dans les années 30 un fœtus de thylacine pris dans la poche de la maman qu'on avait dû malheureusement tuer, conservé dans un liquide, je ne sais pas si c'est de l'alcool, en tout cas dans un liquide. Et il y a une dizaine d'années, il y a eu une conférence de presse à Sydney au Musée d'Histoire Naturelle. Ils ont dit, ils ont sorti le machin de son flacon, non, le flacon de l'armoire, pas le machin du flacon. Et ils ont dit, on va le cloner. Bon, et ben voilà, depuis, ils l'ont rangé et la technique n'est pas encore au point, mais... On revient sur quelque chose qu'on a dit, il faudrait un milieu spécial thylacine pour être sûr que ça ait un sens. Et puis c'est pareil, si on en clone un, il faut plutôt en cloner deux, et éventuellement un mâle et une femelle, parce que malgré tout, c'est plus facile si on a un couple que pas du tout. Mais on est encore aussi dans un mythe de l'Arche de Noé, c'est pas parce qu'on a un couple d'une espèce qu'on a sauvé l'espèce. Ça c'est un mythe, c'est un vrai mythe. Et on a besoin en général de beaucoup plus d'individus pour qu'une espèce soit viable. Et on peut éventuellement réfléchir à cloner des animaux en voie de disparition. Ça serait aussi bien de conserver ce qui reste, de retirer les pressions qu'on connaît parfaitement. Mais actuellement, qu'est-ce qui tue les éléphants? C'est toutes les guérillas, toutes les instabilités politiques en Afrique ou en Asie, et on échange l'ivoire contre des armes. Alors, si vous voulez protéger les éléphants, vous vous affrontez au trafiquant d'armes. C'est pas un métier très, très sain quand même pour les personnes, hein. Et pour l'instant, on a les questions, on n'a pas les réponses.
Et ça va être, désolé, ça va être sur ces mots qu'on va se quitter, puisque la table ronde s'achève maintenant. On peut les remercier.